Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
13 novembre 2015, 130 morts, Saint-Denis et Paris frappés par les attentats. Près de 6 ans après, le procès s'ouvre dans quelques heures à la cour d'assises spécialement composée à Paris. 20 accusés seront jugés, 14 présents et parmi eux, Salah Abdeslam. Focus sur le seul membre encore vivant du commando terroriste avec Gladys Laffitte. Les plages, le bon air marin, les paysages et surtout 5000 emplois à pourvoir. Le Cotentin lance une grande opération de recrutement, ouvriers ou cadres et dans tous les secteurs. Et puis, après une série de 5 matchs nuls consécutifs, les Bleus ont renoué avec la victoire hier soir à Lyon. Résultat 2-0 face à la Finlande. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien et Amblin, bonjour à tous.
On l'appelle déjà le procès du siècle, il s'ouvre dans quelques heures.
Oui, c'est le procès des attentats du 13 novembre 2015, celui des terrasses, du Stade de France et du Bataclan qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Des heures et des minutes épouvantables, s'est souvenu hier soir François Hollande, alors président de la République. Pendant 9 mois, 20 accusés seront jugés, 14 seront là physiquement. Gladys Laffitte, bonjour.
Bonjour.
Parmi les 14 accusés présents, il y aura Salah Abdeslam. C'est le dernier membre du commando terroriste encore vivant. Évidemment, tous les yeux vont se tourner vers lui. On imagine que la cour va tenter de comprendre le rôle qu'il devait jouer ce soir-là.
Oui, car il a déposé le commando du Stade de France avant de prendre la fuite et d'abandonner sa voiture dans le 18e arrondissement, lieu qui apparaissait dans la revendication de l'État islamique. Alors, devait-il se faire exploser et où ? Salah Abdeslam ne s'est jamais vraiment expliqué. Il est resté quasiment mutique tout au long de l'enquête. Il a parlé une fois le lendemain de son arrestation en Belgique. Il a dit qu'il devait se faire exploser au Stade de France, mais avoir reculé au dernier moment, ce qui est contradictoire avec ce qu'il a écrit sous forme de testament à ses proches, où il indique que sa ceinture était défectueuse, ce qui a été confirmé par les expertises. Cette seule fois où il a parlé, il a aussi reconnu avoir loué des voitures et des appartements lors de la préparation des attentats. C'est lui qui est allé en Hongrie et en Allemagne récupérer les membres des différents commandos venus de Syrie.
Et ça fait plus de 5 ans maintenant que Salah Abdeslam est en prison. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble sa vie depuis qu'il est enfermé ?
Il est à l'isolement total, surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des caméras, de peur qu'il se suicide ou qu'il s'en prenne à quelqu'un. Détention qu'il vit très mal. Il s'en ouvre d'ailleurs largement à chaque fois qu'il voit le juge des libertés et de la détention. Plusieurs incidents ont eu lieu avec les surveillants qu'il a traités de mécréants. Il a aussi refusé de voir des psychologues. En revanche, il écrit beaucoup. Il répond notamment à des courriers de femmes, d'admiratrices qui lui demandent son avis sur tel ou tel point théologique.
Gladys Laffitte qui va suivre ce procès pour nous pour Europe 1. À Marseille maintenant, un homme tué par balle hier soir.
Oui, c'est vers 22h30 rue des Petites Maries dans le quartier de la Porte d'Aix que l'homme a été victime de coups de feu. Un autre individu a été blessé légèrement. La piste du trafic de cigarettes est à l'étude. Avant-hier, un individu avait déjà été touché à la hanche. Le motif serait le même.
Cassandre Fristeau, jugée aujourd'hui pour provocation publique à la haine raciale.
Elle avait défilé avec une pancarte jugée antisémite lors d'une manifestation anti-pass sanitaire à Metz le 7 août. 13 organisations se sont constituées partie civile, dont SOS Racisme. L'ancienne candidate Front National aux législatives de 2012 encourt 45 000 euros d'amende et un an de prison.
Après la Bretagne, ça vous gagne. La Normandie, ça vous dit ?
Oui, le Cotentin affiche un taux de chômage parmi les plus bas de France, environ 6%. Et il compte attirer plus de monde en misant sur une vaste opération à la clé. 5 000 emplois dans tous les secteurs, de l'ouvrier au cadre. Le département veut réintroduire le salarié dans son état naturel, comme nous l'indique son slogan. Sandrine Priou, du côté de Cherbourg, on y croit.
Cette vaste campagne de recrutement doit amener 5000 salariés au bout du monde, à Cherbourg. Serge Carantin, par exemple, le patron des constructions métallurgiques de Normandie, voudrait 50 personnes de plus. Autrement dit, il lui manque déjà plus de 12% de personnel.
Aujourd'hui, c'est un frein au développement pour certaines entreprises. Vous sentez peut-être un fond d'accent. Moi, je viens plutôt du bord de la Méditerranée.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes perdu ?
Non, j'ai rencontré une cherbourgeoise. Comme on dit, on ne passe pas à Cherbourg, en fait. On y vient. Mais quand on y vient, bien souvent, on a envie d'y rester.
Pour y venir, et pourquoi pas y rester, les collectivités ont mis 300 000 euros sur des visuels, notamment dans le métro parisien. Et puis, il y a 3 personnes, raconte le président de l'agglo, David Marguerite, qui doivent installer et chouchouter les nouveaux.
On est sur un autre positionnement qu'un territoire de la périphérie parisienne. On est vraiment sur un territoire qui aspire à ce que les installations elles soient durables. Et un territoire comme le nôtre, je trouve, illustre très bien un changement de société très profond.
L'élu local qui revendique déjà ses arguments massus, qu'hier, après le travail, eh bien, ses collaborateurs sont allés à la plage. Cherbourg, Sandrine Prioul, Europe 1.
Pour une République des territoires, c'est le nom du projet que Xavier Bertrand a présenté hier.
Le candidat à la présidentielle était chez lui, à la foire de Châlons en Champagne, en campagne. S'il n'a pas annoncé de grandes mesures concrètes, il veut reprendre la main sur le régalien en se tenant toujours à l'écart évidemment des candidats à la primaire de la droite, Alexandre Chauveau.
La République des territoires, c'est le leitmotiv de Xavier Bertrand qui fustige un État centralisé, qui s'immisce en permanence dans la vie des Français et qu'il souhaite voir recentré sur ses missions régaliennes. Le candidat à la présidentielle souhaite accorder plus de liberté au préfet d'abord pour expulser les immigrés clandestins ou fermer les mosquées salafistes, au chef d'établissement ensuite dans le choix des professeurs, aux citoyens enfin avec le recours régulier au référendum à l'échelle nationale ou locale.
Je veux bâtir un autre État. Un État laissant la place aux initiatives locales, aux collectivités, aux acteurs économiques, aux associations, pour que les changements soient enfin concrets pour nos concitoyens dans leur quotidien.
Alors que la droite n'a pas encore choisi son candidat, Xavier Bertrand refuse toujours de se soumettre à la primaire LR et avance selon son propre agenda. Il sera présent ce jeudi à Nîmes, aux journées parlementaires des Républicains, où il retrouvera les autres candidats, une réunion en théorie fraternelle, mais où la photo de famille aura du mal à masquer les ambitions bien marquées de chacun.
Renault a présenté hier au public au salon de l'auto de Munich le prototype de la future Renault 5.
Une R5 100% électrique, plutôt attirante, mais la présence des constructeurs chinois représente un réel danger pour les Européens. Leurs voitures sont moins chères et arrivent sur le marché, car l'Europe est au centre de la stratégie de développement des Asiatiques. Reportage d'Aurélien Fleureau.
Deux grands stands pour présenter deux de ces marques. Le groupe Great Wall Motors a mis les moyens. Le plus grand constructeur de SUV en Chine est venu avec des produits premium, c'est la marque Way, et des voitures plutôt à destination d'un public jeune et urbain, là c'est la marque Aura. Soleiman Mansouri est le directeur Europe de Great Wall Motors.
Nous avons la grande ambition de devenir une entreprise internationale. Et l'Europe est l'un des piliers les plus importants de cette stratégie. Et puis maintenant, avec les produits de Huawei et de Xiaomi, les consommateurs savent qu'en Chine, les produits sont de très bonne qualité. Et dans le même temps, l'industrie automobile monte en gamme très rapidement.
Et quelques mètres plus loin, c'est un autre géant qui occupe l'espace. Huawei, le spécialiste du smartphone, s'intéresse de plus en plus à l'automobile et propose son savoir-faire sur la connectivité à bord ou la gestion de l'énergie des batteries. Patrick Lemke, expert en technologie, travaille pour la marque en Allemagne.
C'est notre première présence dans ce type d'événement international. Nous sommes là simplement pour démontrer notre capacité à proposer un choix, une offre supplémentaire.
Il y a désormais une douzaine de marques de voitures chinoises commercialisées en Europe. En quelques mois, leur part de marché sur l'électrique a atteint 4%. Munich, Aurélien Fleureau, Europe 1.
On termine avec le foot. Les Bleus ont retrouvé eux aussi du jus. Cela faisait depuis le 15 juin qu'ils n'avaient pas gagné un match.
Oui, et hier soir, l'équipe de France a mis fin à une série de 5 nuls consécutifs en battant la Finlande 2-0 au Groupama Stadium de Lyon pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Une jolie victoire grâce à un doublé d'Antoine Griezmann et surtout un Didier Deschamps rassuré.
Pas soulagé, content, heureux, évidemment, pour les joueurs, ce qu'on a fait. Pour le résultat qui était essentiel pour nous, et on y a mis la manière aussi, avec un public qui a été merveilleux. Donc c'est important pour les joueurs. Vous saviez, la victoire était essentielle pour nous ce soir, dans cette course à la qualification. On l'a obtenue et en faisant de très très bonnes choses. Donc autant, je n'étais pas satisfait de ce que j'avais vu sur les deux premiers matchs, même s'il n'y avait pas tout à jeter. Mais ce soir, c'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire, même s'il y a des joueurs différents, des joueurs qui débutent. Mais collectivement, la prestation est d'un bon niveau.
Un reportage de Cyril de la Morinerie à Lyon.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1. C'est l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pornichet, jouxtant la Baule. Et mon pari gagnant sera le 305 It's Dollar Maker. Ce poulain bien né, à peine âgé de 3 ans, n'a encore jamais connu la défaite depuis le début de sa carrière. Lauréat de ses 3 premières courses, ses limites actuelles sont encore inconnues et la facilité avec laquelle il s'est imposé me laisse à penser qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à conserver son invincibilité. Alors notez bien, pour cet après-midi à Pornichet. Réunion 1 dans la troisième course, le numéro 5, It's a Dollar Maker.
Merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du quintet.
Excellent début de matinée, bon réveil à tous. On se retrouve dans une minute sur Europe 1 avec le pressing.
Notre revue de presse décalée avec au menu ce matin une polémique autour d'Avagin, une machine qui détecte le Covid sans contact et un téléphone patriote, mais pas très bien sécurisé. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on va maintenant ouvrir vos journaux pour en extraire les meilleurs articles.
Oui, c'est le pressing, hein, vous le connaissez, comme chaque matin, le pressing avec le renfort de Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour,
bonjour
à tous.
Martin. Alors on va jeter un œil tout d'abord sur les unes de vos quotidiens largement consacrées au procès des attentats du 13 novembre qui débute aujourd'hui. La nuit qui a choqué la France, c'est le titre d'aujourd'hui en France. Deux personnes qui se prennent dans les bras et ces mots, faire face, c'est la une de Libération. Attentat du 13 novembre, que peut la justice, se demande l'opinion. Élément de réponse à la une de l'Humanité, la justice pour réparer les vivants. Voilà pour vos principaux quotidiens. Martin, on commence avec vous.
Et une question pour commencer, hein. Combien de tests avez-vous fait depuis le début de la pandémie?
Oula, une bonne dizaine.
Oui, on n'arrive plus à les compter. Ouais.
C'est pas toujours très agréable, hein, ces tests, qu'ils soient PCR ou antigéniques, avec cette technique qu'on appelle le prélèvement nasopharyngé, oui. Ce compte-tige immense qu'on vous enfonce dans
immense.
Le fond.
Il est très grand. Hein.
Il est très grand. Dans le fond des narines, ça gratte, hein, ça fait éternuer, dans le pire des cas, ça fait mal. Eh bien, figurez-vous que cette torture s'est bientôt terminée. L'entreprise française Valeo, hein, présente en ce moment au Salon de l'Automobile de Munich une borne révolutionnaire qui permet de détecter le Covid sans aucun contact. Et en moins de 2 minutes.
Sans contact, comment ça fonctionne?
Sans contact, pardon. Alors vous vous postez devant la machine et vous répondez rapidement à 4 questions simples. Hein. Avez-vous mal à la gorge? Avez-vous le nez qui coule? Pendant ce temps-là, les instruments captent votre température, votre fréquence cardiaque ou encore votre amplitude respiratoire. Ensuite, c'est la machine qui fait le reste. Hein. Un algorithme va mixer tous ces paramètres pour établir un diagnostic qui s'affiche sur l'écran. Et c'est fiable à 94%, hein, soit autant qu'un test PCR.
Mais attendez, pourquoi Valeo, qui est un grand équipementier automobile, qui produit notamment tous les capteurs qui bardent nos voitures, se lance dans le diagnostic du Covid?
Eh bien, tout simplement parce que, comme beaucoup d'entreprises, hein, l'équipementier a été très affecté par la crise. Pas de demande, des usines à l'arrêt, il a fallu se réinventer. Tour à tour, l'entreprise a fabriqué des visières de protection, des respirateurs pour les réanimations. Et puis un jour, ces ingénieurs se sont demandé, hein, si leur système de climatisation, avec tous les capteurs dont vous parliez à l'instant, Julien, ne pouvait pas avoir une application dans la santé. C'est là qu'ils ont imaginé ce détecteur de Covid. Pour l'instant, ce détecteur est testé dans 3 hôpitaux, à Créteil en France, hein, mais aussi en Belgique et en Tunisie. Mais son utilisation pourrait être élargie. Hein. Les aéroports, les salles de spectacle ou encore les restaurants se disent déjà intéressés. Reste une question quand même, hein, à quel prix? A priori, ça ne sera pas donné, jusqu'à 2000 euros par mois selon les prévisions de Valeo.
Pour une machine?
Pour une machine, exactement. Ça sera de la location, hein, et qui promet à ce prix-là des progrès avec un diagnostic plus rapide, moins d'une minute et surtout un boîtier plus petit de la taille d'un téléphone. Cette borne détecte le Covid, c'est à lire dans Le Parisien.
Merci beaucoup Martin. Omblin, à vous.
C'est la vidéo qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, celle d'une candidate de l'émission de télé-réalité Les Marseillais versus le reste du monde, Maëva Guénam. Ici, c'est plutôt Maëva Guénam contre le reste du monde. Et c'est-à-dire sur le site du Parisien, entre autres, hein, trêve de parole, écoutons.
Moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Il faut l'entretenir. Mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. C'est comme si j'avais 12 ans, genre.
Voilà, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Alors, la finalité, c'est d'avoir des parties intimes comparables à celles d'une enfant. Bien. Le tollé général, réaction de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, les internautes vent debout, même le rappeur Booba, qui n'est pas franchement connu pour ses prises de position féministes, a réagi. Alors le problème profond de ce genre d'intervention, c'est la promotion d'une norme d'un sexe féminin soi-disant parfait, véhiculé par la pornographie. Qu'on soit bien d'accord, il n'est pas question de santé ici. Beaucoup pointent du doigt le danger de ce genre de discours, des jeunes femmes, des influenceuses, suivies par des milliers de gens, j'ai envie de dire des milliers de jeunes, sur les réseaux sociaux qui tiennent des propos qu'elles ne maîtrisent pas. Ça montre clairement une défaillance des connaissances en matière d'éducation sexuelle. D'une certaine manière, les mouvements féministes n'accablent pas la jeune femme. Étonnamment, non. puisque elle est représentative de ce que la société peut produire de pire. Voilà, une femme objet, ultra sexualisée, exposée par la télé-réalité. Elle est une victime, Maëva Guénam.
Donc c'est la faute des hommes, c'est ça?
Non, c'est la faute de la société, des images qui sont véhiculées, la pornographie, tout ce qui entoure l'image parfaite qu'on souhaite avoir d'une femme. Les fesses, les poitrines, les ventres ultra plats, des visages lisses modelés sur les tables d'opération des chirurgiens esthétiques, ces stéréotypes imposent une vision de la femme. Et le vagin, alors, ou plutôt la vulve, Maëva Guénam mélange tout, doit ressembler à celui d'une pré-ado. En tout cas, c'est ce qu'elle défend et c'est ce qu'elle encourage. Depuis, elle s'est excusée, toujours sur les réseaux sociaux.
Je me suis très, très mal exprimée. Il faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info, elle ne passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. J'ai beaucoup de conneries.
Bon, ça a le mérite d'être honnête.
Ce sont des excuses, on les prend comme elles sont. En tout cas, l'occasion, c'est de dénoncer une fois de plus et encore plus fort les nouvelles pratiques de la chirurgie esthétique.
Oui, merci Omblin.
Avec plaisir.
Quand même, c'est terrible, cette histoire. C'est assez révélateur.
Très révélateur.
Oui, c'est ça. Pff, c'est un peu déprimant.
J'ai choisi, les amis, pour ma part, un article du New York Times traduit en français par le site Slate. Est-ce que, Martin, Omblin, vous êtes plutôt satisfait de votre téléphone?
Ah, oh bah oui. Et là, oui, ils sont bien maintenant.
Oui, et bien, pas ce jeune Américain. Très poli, ce jeune Américain. La preuve, il se présente à nous.
Hi, I'm Eric. I'm the world's youngest Bitcoin millionaire.
Poli et modeste en plus. Je suis le plus jeune millionnaire en Bitcoin du monde, nous dit Eric Finman, 22 ans, qui derrière son visage juvénile cache un homme en colère. En patriote convaincu, Eric n'a pas du tout apprécié que son président Donald Trump se fasse exclure de Twitter, Facebook et autres après l'assaut du Capitole. Il n'a pas non plus aimé que plusieurs réseaux sociaux très prisés des militants d'extrême droite se fassent bannir par Apple et Google de leur catalogue d'applications. La faute à de multiples appels à la haine et à la violence et à une modération sur ces réseaux sociaux quasi inexistante. Trop, c'est trop. Pour ce cher Eric, la liberté d'expression est en danger. Voilà pourquoi le jeune homme a créé le Freedom Phone, le téléphone de la liberté dont il nous vante les mérites.
It does everything your current phone does, except censor you and spy on you.
Le meilleur téléphone du monde qui fait tout pareil que les autres sans vous en censurer ou vous espionner. Alors dans ce clip promotionnel, le jeune entrepreneur nous explique à grand renfort de drapeau américain comment fonctionne son Freedom Phone. Toutes les applications bannies par Apple et Google sont disponibles et ce n'est pas tout. Aucune géolocalisation, aucune collecte de données. Bref, un téléphone qui respecte votre liberté d'expression et votre vie privée. Le tout pour 500 $, une aubaine, 12 000 exemplaires ont été commandés en seulement 6 semaines. Le problème, parce qu'il y en a un, c'est que cet appareil est en réalité un téléphone directement acheté à un fabricant chinois réputé pour ses produits low cost et facile à pirater. Un comble pour ce téléphone patriote made in China et qui défend tellement bien la liberté que c'est porte ouverte pour les hackers.
Bah c'est bien, on a eu tout de suite confiance dans l'humanité là, avec tout ce qu'on se dit.
Le monde va bien.
Ouais, tout va bien. Voilà.
Mais non, mais regardez, la machine pour tester le Covid sans contact.
Merci Martin, heureusement que vous êtes là. Et merci à vous Julien. Rideau sur ce pressing, ma foi, très intéressant. Et Martin, évidemment, vous revenez dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi matin, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Ils ont traumatisé les Français, les attentats du 13 novembre 2015. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Paris. Pendant 9 mois, 20 accusés seront jugés, 14 seront présents physiquement. Parmi eux, Salah Abdeslam, dernier membre du commando terroriste, encore vivant. Dernier séminaire gouvernemental de rentrée du quinquennat Macron. Aujourd'hui, le président demande à ses ministres de venir avec 3 réformes réalisées d'ici 2022 et 3 actions à valoriser dans son bilan global. L'hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo a lieu demain aux Invalides, 3 jours après son décès. La famille a donné son accord. Les obsèques de l'acteur se dérouleront vendredi à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un doublé d'Antoine Griezmann, les Bleus ont renoué hier avec la victoire au Groupama Stadium de Lyon face à la Finlande en qualification pour le Mondial 2022. Avec un score de 2-0, Didier Deschamps se dit soulagé sur Europe 1 ce matin.
Les initiatives en France à 5h20 sur Europe 1. C'est la chronique qui met en lumière celles et ceux qui sortent du cadre. Vous cherchez du travail ou au contraire, vous avez du mal à recruter. Eh bien, écoutez bien ce qui va suivre. Direction avec vous, Julien Lillet-Vilaine.
Bonjour Didier Méril.
Oui, bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes à la tête d'un charmant hôtel-restaurant dans la non moins charmante ville de Dinard. Cadre magnifique en bord de mer, les pieds dans l'eau. Et pourtant, vous avez beaucoup de mal à recruter du personnel. Du coup, vous avez décidé d'innover. Racontez-nous.
Ah oui, disons qu'on rencontre un petit peu les difficultés de tout le monde. Il y a une tension d'offres un petit peu, enfin de demandeurs. Donc moi, je me suis dit qu'il fallait un petit peu bousculer les choses et puis sortir un peu des sentiers battus, puisque tous les journaux saturent d'annonces, Pôle emploi sature d'annonces, et ça donne rien du tout. Et je me suis dit, on va utiliser un levier qui va être tout notre réseau Facebook, en fait, puisque j'ai plus de 2200 amis personnels sur mon compte Facebook, et les solliciter pour voir si dans leur entourage, ils ont des connaissances, des amis... qui cherchent un nouveau travail ou qui ont envie de déménager en Bretagne ou qui ont envie de vivre une nouvelle aventure. Et puis on s'est dit, ben, on va les motiver, on va leur offrir un grand moment de plaisir au bord de la mer. Donc on leur met une suite qui est à 10 mètres de la mer, les pieds dans l'eau, et deux menus dégustation offerts à celui qui va nous mettre en relation avec un salarié qui va matcher avec nos attentes. Et donc dès que celui-ci aura passé sa période d'essai, on offrira ce cadeau. Et je fais pareil avec mes salariés pour... Ben, s'ils ont un copain avec qui ils étaient au lycée, qu'ils ont envie de faire venir dans le coin, avec qui ils ont envie de travailler, ben, eux aussi auront une prime de 500 euros pour nous aider à recruter et puis voilà, pour motiver un petit peu tout le monde.
Donc si j'ai un ami qui est serveur par exemple, je vous le recommande, et si à l'issue de son essai c'est concluant, vous m'offrez une nuit dans l'une de vos suites et en prime un repas gastronomique.
C'est ça, on va vous offrir
c'est
du
considérable,
plaisir.
C'est très généreux parce que j'ai fait le calcul, c'est une récompense entre guillemets à 500 euros.
Oui, alors effectivement, c'est généreux, mais vous savez, quand on prend un bureau pour recruter, ça coûte 3000 euros. Donc l'un dans l'autre, non seulement on va faire plaisir à beaucoup de gens, en plus on va parler de nous, on a que du positif dans cette démarche.
Vous cherchez combien de personnes actuellement ?
Alors moi, je cherche deux personnes en salle et une personne en cuisine.
Et vu le standing de votre établissement, ce sont plutôt des profils qualifiés que vous recherchez ?
Alors on cherche surtout des gens motivés, qui ont envie d'être là, qui ont envie de donner du plaisir, de se faire plaisir. Et d'évoluer dans l'entreprise. Parce qu'après, on fait beaucoup de formations en interne. Je suis bien conscient qu'on a une offre qui est très large. Et moi, j'ai besoin que les salariés puissent tourner d'un poste à l'autre. Donc, on va former sur tous les sujets. Hein. S'il y a un salarié qui ne connaît pas très bien les fromages, par exemple, on va le former sur les fromages. S'il a besoin de connaissances sur les vins, on va le former sur le vin. On va compléter un petit peu son cursus. Donc, ça va lui mettre plus de cordes à son arc pour son futur. Et puis nous, ça nous permet après d'avoir, parce que comme on ouvre 7 jours sur 7 tous les jours, on est obligé d'avoir une équipe qui peut rouler d'un poste à l'autre.
Alors on l'a compris, vous serez généreux avec vos futurs chasseurs de tête, entre guillemets, mais vous le serez également avec vos futurs salariés.
Alors c'est pas que tout de suite, hein, on a déjà mis ça en place depuis plusieurs années, hein, puisqu'on a mis en place un intéressement. Hein, je me suis toujours dit que le salaire, c'était la rémunération du travail, et l'intéressement sur l'entreprise, c'est la rémunération... du résultat de son travail, quoi. Donc ils ont un intéressement, cet intéressement-là est versé sur un plan d'épargne entreprise dans lequel j'abonde à 300% de la somme épargnée. Et puis après, on a mis en place un plan d'épargne retraite pour pouvoir mettre cet argent-là sur un compte qui est rémunéré pour leur retraite et pour plus tard, quoi.
Et puis vous allez aider vos futurs salariés aussi à déménager s'ils doivent déménager.
Oui, alors c'est ça. Oui, si un salarié décide de passer le cap et de venir s'installer par chez nous, donc non seulement je lui mettrai un forfait pour prendre en charge une partie de son déménagement, on a un bon réseau de relations avec des agences immobilières pour trouver des logements. Je prendrai en charge les frais d'agence pour les soulager, et puis donc ça fera comme une prime de déménagement, une prime d'arrivée. Et puis on a aussi des logements qu'on mettra à disposition gratuitement le temps qu'ils s'installent. Voilà. Enfin, l'idée, c'est quand même de faciliter la vie à tout le monde. Je sais que ça peut être un sacré changement de quitter une région pour arriver dans une autre. Et que nous, on va être là. Si ça matche entre nous, on sera là pour le soulager de cette charge et qu'il a réussi en toute sérénité, quoi.
C'est extrêmement généreux et c'est tout à votre honneur. On vous souhaite de trouver rapidement le personnel qui vous manque. Merci Didier Méril de nous avoir partagé votre initiative. Je précise que votre hôtel-restaurant à Dinard porte votre nom. Il est donc facile à trouver si vous êtes intéressé par ces offres d'emploi. Sinon, vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de le faire suivre. Encore merci et à bientôt sur Europe 1.
Avec plaisir, à bientôt, merci.
Europe Matin, 5h, 6h30 sur Europe 1.
Il paraît que la terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute. Si tout c'était un pour toi. Mais y'a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Serait bien mieux sans nos lois. En attendant le futur, cacahuète et pastèque. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là. De l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là, oh là là. Viens, on s'accoude deux étoiles. Mon cœur a soif de voix lactée. Oh là là. Quelques glaçons, quelques larmes. Les gens font pour oublier. Oh là là. Viens, on s'accoude deux étoiles. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là. Viens, on s'accoude aux étoiles. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là.
Juste au bout. Julien Doré sur Europe 1. Alors, pas seulement. Hein. Il y a aussi Simone et Jean-Marc. On vient de les entendre, ces chiens. Quelle race, Julien ?
Ce sont des bergers blancs suisses, a priori. Là, je suis en train de regarder. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est des bergers allemands, mais blancs.
Ils sont gros, quand même.
Pour faire simple. Oui, bah, moi, c'est des bergers allemands.
Je croyais que c'était des caniches. Waf, extrait de son album Aimé, l'album de Julien Doré, et non pas celui de Simone et Jean-Marc. Et il sera, Julien Doré, toujours en tournée, dès la fin du mois de février.
Eh ben, c'est noté, avec les chiens aussi.
Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
On lui demandera.
5h28 sur Europe 1, on referme cette parenthèse canine. J'espère que le réveil n'est pas trop dur ce matin. On va tâcher en tout cas de l'adoucir dans la demi-heure qui vient.
Avec notre spécialiste cinéma, Laurie Choleva, qui a vu le film Respect sur Aretha Franklin avec la lumineuse Jennifer Hudson dans le rôle de la reine de la soul. C'est un film européen dont on est très très fiers.
Et puis, avec votre invité Omblin, cette bonne nouvelle concernant le travail des jeunes et les formations en apprentissage.
Oui, il est de verser aux entreprises qui embauchent des alternants et prolongés jusqu'en juin 2022. C'est le Premier ministre Jean Castex qu'il a annoncé en début de semaine. Avec plus de 500 000 contrats d'apprentissage signés en 2020, l'alternance n'a jamais été autant plébiscitée. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, on en parlera dans 10 minutes avec le président du réseau national des chambres des métiers et de l'artisanat.
Mais avant, votre météo de ce mercredi avec l'orageuse Anissa Dadi.
Oh là, attention, le tonnerre va gronder. Hein. Et alors, je suis désolée, je vous annonce vraiment pas des bonnes nouvelles parce que nous avons une dégradation orageuse qui va toucher le pays jusqu'à vendredi. C'est vrai que cette traversée de la France, elle va commencer dès ce matin. Alors, pour l'instant, les orages sont nombreux dans l'Atlantique. Hein, on les voit, ils sont même parfois violents en plein océan. Ils évoluent ce matin vers le sud Bretagne, le littoral des Pays de la Loire. Donc, prudence, si vous nous écoutez entre Brest et La Roche-sur-Yon, ces orages pourront être localement forts avec de la grêle, des rafales de vent et de forts cumuls de pluie. Dans la matinée, les orages avancent jusqu'à la Normandie et dans l'après-midi, la dégradation orageuse va toucher pratiquement toute la moitié ouest et surtout l'Auvergne, le Limousin, le Midi-Pyrénées où là, on attend jusqu'à un mois de pluie par endroit. Il y aura des vigilances orange, c'est quasi certain. 11 à 21 degrés ce matin, 12 à Strasbourg, 18 à Marseille et Paris, 21 degrés à Bordeaux. Évidemment, les températures baissent cet après-midi à l'ouest avec 21 à Cherbourg, 23 à Lorient, 26 à Caen. Ailleurs, là où le soleil est encore là, donc sur la moitié est, il fait encore chaud. 28 à Saint-Etienne, 31 degrés à Paris et 32 pour Montluçon.
Prudence donc, merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
L'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, le Stade de France, les terrasses et le Bataclan, 130 morts, 350 blessés. La justice va replonger dans l'horreur d'une tuerie de masse. 20 personnes jugées, dont Salah Abdeslam, seul survivant présumé du commando qui a frappé ce soir-là. En face, 1800 parties civiles constituées. Le dispositif de sécurité est à la hauteur de cet événement judiciaire exceptionnel. Emmanuel Macron veut-il vraiment rouvrir le dossier de la réforme des retraites avant la fin de son mandat? Une bonne partie de sa majorité tente de l'en dissuader. Et puis nous irons prendre des nouvelles de Steven Dacosta, le champion olympique de karaté. Il a repris le chemin de l'entraînement, motivé comme jamais. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Encore quelques heures d'attente. À 12h30 précisément, le président de la Cour d'assises spéciale de Paris ouvrira officiellement les débats. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui a fait 130 morts et 350 blessés pourra alors commencer. Procès hors norme, on l'a dit, mais pour s'en rendre compte, il suffit d'aller du côté de l'île de la Cité à Paris où il doit se tenir. Le palais de justice est sans doute l'endroit le mieux protégé de France aujourd'hui. Marion Dubreuil.
Oui, dès 7h ce matin, un large périmètre de sécurité sera mis en place autour du palais de justice. Tous les accès seront fermés à la circulation. Et si vous êtes à pied, il faudra se soumettre à des fouilles systématiques aux abords du tribunal. Le palais de justice, lui, sera séparé en deux. L'accès par le boulevard du palais sera réservé au fonctionnement classique de la cour d'appel de Paris, où il y a en ce moment deux sessions d'assises. Pour suivre l'audience des attentats du 13 novembre, il faudra passer par l'arrière du palais de justice. C'est le même accès pour tous les acteurs du dossier, partie civile, avocats, journalistes, à l'exception bien sûr des accusés. 11 d'entre eux comparaissent détenus et seront extraits tous les jours de leur prison francilienne sous escorte. Leur cheminement au sein du tribunal a fait l'objet d'une réflexion spécifique. Pas question pour Salah Abdeslam et ses complices présumés de passer par le dépôt où attendent des accusés jugés dans d'autres affaires criminelles. Comme la salle d'audience, des cellules ont été construites spécialement pour les accusés du 13 novembre.
Marion Dubreuil qui suivra ce procès pour Europe 1. À Metz, la jeune femme qui a brandi une pancarte considérée comme antisémite pendant une manifestation anti-pass sanitaire sera aujourd'hui jugée en comparution immédiate.
Les ministres au rapport, à 200 jours de la présidentielle, Emmanuel Macron réunit le gouvernement pour un séminaire de rentrée qui s'annonce studieux.
Chaque ministre devra présenter 6 réformes déjà faites ou qu'il est encore possible de faire d'ici la présidentielle. Le président qui semble hésiter sur un dossier, celui des retraites. Faut-il le rouvrir complètement ou bien se contenter de faire adopter une mesure symbolique comme par exemple la suppression des régimes spéciaux? La tentation est grande, mais qu'en pense la majorité, Louis Dragnel?
Eh bien, du côté du propre parti d'Emmanuel Macron, on n'a aucun problème à afficher son scepticisme. D'abord et avant tout parce que le centre de gravité de La République En Marche se trouve clairement à gauche. Pas vraiment à l'aise avec l'idée d'une réforme des retraites, même au rabais. Et je peux vous dire que les députés qui entament leur dernière année de mandat avec l'espoir d'être réélus n'ont pas du tout envie qu'on leur reproche cette mesure sur les marchés pendant la campagne législative. Alors officiellement, deux raisons invoquées. Ce n'est pas le bon moment, le calendrier parlementaire est saturé. Même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, une personne qu'écoute Emmanuel Macron, le dit, c'est une excellente réforme de début de deuxième quinquennat. Christophe Castaner, le fidèle d'entre les fidèles, considère également que ce n'est pas la priorité du moment, car il faut déjà faire adopter 14 textes de loi. Mais pour être clair, tous ont compris ce qu'Emmanuel Macron tente de faire. Parler à la droite avec ce symbole de la suppression des régimes spéciaux et puis en même temps à la gauche avec une retraite minimum de 1000 euros par mois.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. L'Élysée qui a donné quelques détails sur l'hommage national qui sera rendu demain à Jean-Paul Belmondo. La cérémonie se déroulera dans la cour des Invalides en présence de sa famille et de ses proches. Un millier de places seront ouvertes au public à condition de présenter son pass sanitaire et pour ceux qui ne trouveraient pas de siège, des écrans géants seront installés sur les pelouses de l'Esplanade.
La situation sanitaire reste sous très haute surveillance en Outre-mer, où l'on est tout près de prolonger l'état d'urgence.
L'Assemblée nationale a déjà dit oui à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre dans la majorité des territoires ultramarins. La mesure permet de maintenir le couvre-feu, voire le confinement comme en Nouvelle-Calédonie. L'archipel enregistre au moins 3 cas de Covid et redoute une explosion des contaminations.
Pendant ce temps, en métropole, la situation donne toujours le sentiment de se stabiliser.
Oui, les chiffres sont encourageants, baisse très sensible. Cible des admissions dans les hôpitaux, une centaine de patients en moins. Même chose dans les unités de soins critiques avec 2249 malades. Cela représente là aussi une centaine de personnes en moins.
La santé, on continue d'en parler, mais avec la lutte contre les perturbateurs endocriniens, la mairie de Lyon tente une expérience dans les crèches.
Elle vient déjà de prendre une série de mesures pour réduire significativement leur présence dans les 150 crèches de la ville. Il s'agit d'agir très tôt pour protéger la santé des plus jeunes. Reportage Jean-Luc Boujon.
Les perturbateurs endocriniens, ce sont ces substances chimiques qui peuvent provoquer chez l'être humain un dérèglement hormonal ou altérer sa santé. Les enfants de 0 à 3 ans sont les plus vulnérables face à ces perturbateurs, d'où l'idée du maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, de s'attaquer à leur présence dans les 150 crèches de la ville.
On va sortir du tout plastique, puisque notamment un certain nombre de plastiques émettent ce qu'on appelle des phtalates, qui sont des substances qui affectent le développement de l'enfant, notamment l'appareil reproducteur. Donc voilà, on change par exemple le mobilier, la vaisselle, les assiettes, les verres. Les couverts, tout ça va être en matériaux plus durables. On va revenir à la céramique, par exemple, pour les assiettes.
Fini aussi les détergents chimiques pour nettoyer les crèches, explique Steven Vasselin, adjoint à la petite enfance.
On a expérimenté des lingettes microfibres qui sont faites à base de marc de café et qui, en fait, ont une fonction nettoyante et virucide remarquable. On l'a expérimenté au sein de nos crèches et on va maintenant la généraliser.
Des lingettes non pas jetables mais réutilisables. Autant de mesures qui vont dans le bon sens, estime Khadija Erard, directrice de la crèche Saint-Maurice dans le 8e arrondissement de Lyon.
On en sent la nécessité au niveau de l'utilisation de la vaisselle, au niveau des jouets, pensez peut-être plus à l'achat de jouets en bois ou d'autres matières plus écologiques.
Des mesures qui concerneront dans un second temps toutes les écoles de la ville. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
L'Afghanistan aura bientôt un nouveau gouvernement. Les talibans ont dévoilé une partie de leur exécutif. Le poste de ministre de la Défense revient au fils du Mollah Omar, bien qu'incomplet. Ce futur gouvernement devra faire respecter la charia selon les vœux du chef suprême des talibans. Il demande aux Afghans candidats à l'exil de ne pas quitter le pays et leur promet des mesures pour protéger les droits de l'homme.
Retour en France avec cette surprise qui est plutôt bonne. Notre économie va mieux que prévu.
C'est l'analyse ou plutôt la prévision de l'INSEE qui table sur une croissance de 6,25% du PIB cette année. Ce petit quart supplémentaire fera sans doute plaisir aux prévisionnistes du ministère des Finances qui tablait sur 6% de croissance. Une interrogation demeure en ce qui concerne la consommation. Les ménages qui ont posé le pied sur le frein en juillet et en août vont-ils accélérer ou continuer d'épargner? Selon la Banque de France, les Français ont mis au total 157 milliards d'euros de côté depuis le début de la pandémie. À Marseille, la police est à la recherche du tireur responsable de la mort d'un homme hier soir dans le centre-ville. La victime a reçu plusieurs balles. Aucune certitude pour l'instant, mais les enquêteurs explorent la piste d'un règlement de compte lié au trafic de cigarettes.
Le football, la France se rassure face à la Finlande.
Les Français s'imposent 2-0 et prennent le large dans leur groupe de qualification au Mondial 2022. Deux buts signés Antoine Griezmann. L'attaquant français compte désormais 41 buts au compteur et rejoint Michel Platini au palmarès.
Lui aussi a un solide palmarès. Le tout récent champion olympique de karaté, Steven Dacosta, qui a repris le chemin de l'entraînement.
Europe 1 y était et même si le karaté n'est pas retenu pour les Jeux de Paris 2024, l'effet médaille d'or joue à plein, on se bouscule pour prendre une licence. Reportage à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle, Arthur Elmbaché.
Une heure avant le premier entraînement post-médaille d'or, il y a la reprise de l'école de karaté de Mont-Saint-Martin et effet Steven Dacosta, beaucoup, beaucoup de nouveau. Martine est la maman de Léo, 4 ans et demi.
Le jour de la rentrée, pour les primaires, Steven est venu faire un petit discours et à la fin de la journée, son grand frère est rentré avec une carte dédicacée. Il l'a donné à son petit frère, il lui a déjà un cadeau. Et son frère lui a dit « Ah, t'es le meilleur frère du monde !» Et il m'a dit « Tu vois, maman, il est beau, hein. Mais un jour, moi aussi, je gagnerai ma médaille. » À mon avis, il y a des heures et des heures d'entraînement et tout là-dedans, mais ça paye, quoi. C'est... Attends, médaille olympique, franchement la classe, quoi.
Et donc, retour à l'entraînement de la star après un mois loin des tatamis.
Ouais, je suis fatigué. Non, c'est dur de se remettre dedans, je te mens pas. Là, de se remettre là, de revenir à l'entraînement et tout, c'est compliqué. Là, j'ai recommencé doux parce que j'avais peur de me blesser, tu vois, de revenir raide comme ça, là, d'enchaîner. Mais là, la première semaine, je vais être un peu plus light. Mais c'est plus pour ne pas me claquer ou quoi, tu vois. Mais après, derrière, je vais reprendre dur, j'ai pas le choix, il faut.
Il faut, dans 2 mois seulement, les championnats du monde et un titre à défendre. Mont-Saint-Martin, Arthur Henbaché, Europe 1.
Un titre à défendre, mais aussi un titre déjà acquis, celui de champion olympique.
Et ce n'est pas rien. C'était le journal de notre karatéka de l'info, Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est un très beau quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Pornichet, la 10e étape du Grand National du Trot. Et parmi les 16 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 7, favori de Lyton, idéalement engagé de par les conditions de course, juste à la limite du recul des 25 mètres et dont la parfaite condition physique est certaine, comme le prouvent ses 2 dernières tentatives sur l'hippodrome d'Anguin. Ménagé cet été en vue de ce quintet, il s'annonce difficile à battre. Son principal rival sera Élite Beaufour, le numéro 13, absent de toute compétition depuis plus de 7 mois en raison d'une fêlure à un postérieur. Mais grâce aux bons soins de son entourage, il est à nouveau prêt à en découdre dans ce Tour de France des trotteurs qui lui avait si bien réussi l'an dernier. Derrière ces 2 priorités, je vous recommande les numéros 3 Fly Speed, irréprochable depuis le début de l'été, et 6, Festif Charmant, bon second en dernier lieu d'un quintet à Cabourg, à l'issue d'une fin de course remarquée. Enfin, les numéros 2, Eddy Duvivier, 11, Fairplay d'Urzy, 4, Cadet et 9, Euro Duchesne, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 13, 3, 6, 2, 11, 4 et 9.
Les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h41, merci de choisir Europe 1, très bon réveil. Et tendez l'oreille si vous êtes artisan ou commerçant et que vous souhaitez embaucher un jeune en alternance ou si vous souhaitez vous lancer dans une formation en apprentissage. L'aide allouée aux entreprises pour les embauches d'apprentis va être prolongée, on en parle dans un instant, avec le président du Réseau National des Chambres des Métiers de l'Artisanat. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43, très bon réveil à tous avec cette bonne nouvelle. On n'arrête plus l'engouement autour de l'apprentissage. Grâce aux aides de l'État, plus de 525 000 contrats ont été signés en 2020. C'est 42% de plus que l'année précédente. Une dynamique que le gouvernement entend renforcer. Jean Castex vient d'annoncer que les coups de pouce seront prolongés jusqu'au 30 juin 2022. On en parle ce matin avec Joël Fourny, le président du Réseau national des chambres des métiers et de l'artisanat.
Bonjour Joël Fourny.
Bonjour.
Lorsqu'une entreprise embauche un alternant de moins de 18 ans, elle reçoit 5 000 euros. Cette aide s'élève à 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant âgé entre 18 et 26 ans. En résumé, un apprenti dans une entreprise ne va quasiment rien coûter à l'employeur la première année. Stimulé par cette aide, l'apprentissage est présenté aujourd'hui comme une solution contre la crise. Est-ce que l'apprentissage a toujours été considéré ?
Oui, l'apprentissage a été toujours considéré, en tout cas dans notre secteur, les métiers de l'artisanat. Vous savez, il y a beaucoup de personnes et de chefs d'entreprise et d'artisans qui sont passés par l'apprentissage. Donc c'est une vraie filière de formation valorisante, en tout cas pour ces métiers du secteur de l'artisanat. Et aujourd'hui, ça l'est d'autant plus valorisé, c'est que la loi Choisir son avenir professionnel a permis de travailler sur la notoriété des métiers, la valorisation des métiers et notamment tous les métiers du secteur de l'artisanat. La filière de formation par l'apprentissage est aussi une filière d'excellence. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un intérêt à travailler sur ce volet-là parce qu'on a énormément de jeunes qui portent une autre attention. Et la crise nous a permis aussi peut-être de réaffirmer cela parce qu'en fait, on a pris vraiment conscience de la nécessité de l'économie de proximité.
Alors pourquoi l'apprentissage aujourd'hui plaît aux jeunes ?
Elle plaît parce qu'en fait, il y a un avenir professionnel, il y a un vrai avenir, une carrière possible pour un jeune. Donc quand il s'engage dans un métier qui l'intéresse, qui lui plaît, il a une possibilité de s'épanouir, il a une possibilité, d'avancer vers une carrière extrêmement brillante, même d'aller jusqu'à reprendre une entreprise artisanale, créer sa propre entreprise éventuellement. Donc vous voyez, il y a vraiment un avenir extrêmement intéressant et valorisant. Et puis, ça lui permet d'avoir, de définir sa propre vision des choses par rapport à son engagement professionnel.
Et les entreprises sont-elles demandeuses aussi ? particulièrement?
Oui, les entreprises sont demandeuses, notamment parce qu'elles ont des forts besoins de recrutement. Donc aujourd'hui, elles se sont fortement engagées sur la formation par alternance et pas dans le cadre de l'apprentissage. L'aide gouvernementale est une excellente bonne nouvelle pour nous parce qu'elle a été repoussée au 30 juin 2022 et c'est vraiment un signe fort comme quoi le gouvernement porte un intérêt sur cette formation par apprentissage. Et du coup, les entreprises répondent positivement parce qu'elles ont, un fort engagement. Là où on était à 4% d'augmentation en nombre d'apprentis dans les 136 CFA de notre réseau des chambres de métiers. Aujourd'hui, nous savons qu'on va faire plus 8% sur cette rentrée 2021. C'est un excellent cru, au-delà de nos prévisions. Donc pour nous, c'est un signe comme quoi les entreprises ont un fort engagement sur la formation initiale.
Et quels sont les métiers les plus porteurs proposés aujourd'hui par les centres de formation ?
Les métiers, vous savez, l'artisanat, c'est 250 métiers. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un fort besoin de recrutement dans tous les métiers. Mais on a beaucoup de jeunes. Il y a le bâtiment qui est en forte croissance et en fort développement avec un fort besoin. Et puis également les métiers du secteur alimentaire, les services aussi dans le domaine de la coiffure, l'esthétique. Vous voyez, donc il y a vraiment des potentialités pour les jeunes générations à tous les niveaux, même sur des métiers des métiers de niche. Hein. Vous avez par exemple des métiers comme vitrailliste. Là, on a besoin aussi de former énormément et vous avez des jeunes qui portent un intérêt pour ce secteur-là.
Si l'apprentissage est présenté comme la voie royale pour accéder à l'emploi, est-ce que l'embauche est assurée à la fin?
Oui, vous savez, quand un jeune a choisi la formation par apprentissage, à peu près 75% d'entre eux, même voire un peu plus, sont garantis sur une capacité d'employabilité ensuite. Hein, donc, trouvent un emploi au bout des 6 mois suite à leur formation. Donc, c'est un signe comme quoi il y a une vraie opportunité d'embauche derrière. Vous savez, les entreprises, elles ne forment pas, elles ne s'engagent pas dans la formation comme ça pour rien. Elles ont envie aussi de donner un vrai avenir professionnel par la création d'emplois derrière et de confirmation d'emploi en direction de ces jeunes qui sont formés dans de l'artisanat.
Que va-t-il se passer en juillet 2022 si l'aide aux entreprises s'arrête? Est-ce qu'on va garder cet engouement?
Oui, bien sûr. Au-delà de 2022, de juin 2022, les entreprises vont garder la même dynamique sur la formation par apprentissage parce que c'est dans son ADN, la formation par apprentissage.
Merci beaucoup, Joël Fourny, d'avoir accordé ces quelques minutes à Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du réseau national des chambres des métiers et de l'artisanat. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Et à 5h48 sur Europe 1, il est grand temps de parler cinéma avec la prescription culture de Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Laurie, c'est un film Europe 1 ce matin, un film magistral et qui met en avant une personnalité hors du commun.
Et c'est Respect sur la vie de la reine de la soul, Aretha Franklin. C'est vraiment un biopic différent. Moi, j'ai adoré parce que c'est un film qui choisit de se focaliser sur la jeunesse d'Aretha jusqu'à la fin de ses 30 ans. La réalisatrice Lil Stomy explique en fait qu'elle a voulu mettre l'accent sur la jeunesse d'Aretha et le début de sa carrière que finalement on ne connaît pas du tout. Alors, faut savoir que Aretha, c'est la fille d'un éminent pasteur. Elle a grandi dans un milieu privilégié au contact de tout le gratin politique, artistique, culturel de l'époque. Et elle a compris très tôt l'importance de la lutte pour l'égalité sociale.
T'en es à combien d'albums?
4.
Et aucun succès. Ma chérie, trouve des chansons qui te prennent aux tripes. Sans ça, tu n'y arriveras jamais. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me.
R-E-S-P-E-C-T, take care of me. Aretha, tu parles aussi, n'est-ce pas? Tu ne fais pas que chanter.
J'aimerais que vous m'appeliez Mademoiselle Franklin.
On doit protester pour enfin se faire respecter.
Et on est nombreux à ignorer à quel point Aretha était militante. C'est vrai que pour nous ici, ça reste la reine de la soul. Mais aux États-Unis, elle est bien plus que ça. C'est une figure, un leader d'opinion très écouté. Lorsqu'elle interprète Freedom, elle dédie cette chanson à tous ceux qui se sont sentis maltraités. C'est une façon pour elle de marquer à quel point elle est devenue le symbole du féminisme et surtout de la lutte pour les droits civils des Afro-Américains.
Cette chanson s'adresse à tous ceux qui se sont déjà sentis maltraités.
You have
Freedom Sing, la chanson qui met de bonne humeur parfaite. Et puis surtout aussi un film sur un parcours de femme. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est que vraiment, on voit à quel point Aretha a dû transformer ses peines en inspiration artistique pour donner lieu à des chefs-d'œuvre. La musique d'Amazing Grace, par exemple, qui fait partie des grands titres cultes d'Aretha. Quelle voix, quel talent. Et puis surtout, la réalisatrice résume à merveille le film. En fait, elle explique que c'est l'histoire d'une jeune femme à la capacité vocale exceptionnelle qui a dû lutter toute sa vie pour trouver sa voix. Je trouve ça très beau. Je vous précise également que Jennifer Hudson est épatante dans le rôle d'Aretha Franklin et Forrest Whitaker, comme d'habitude, extraordinaire. Il joue le père d'Aretha Franklin. Et comme on ne s'en lasse pas, on se quitte sur cet extrait qui, pour moi, reste le plus grand tube d'Aretha Franklin. Et si vous voulez connaître l'histoire derrière la chanson, il faudra aller voir le film en salle et c'est Respect. Voilà, Respect en salle aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurie Choleva. Il faut préciser que dans Respect, c'est Jennifer Hudson hein, qui chante.
Ah oui ?
Évidemment.
C'est
elle est incroyable. Journée spéciale Aretha Franklin sur Europe 1 avec notamment ce soir dans Musique la diffusion du podcast hors série Clap, les combats
excellent
d'Aretha. Et des extraits du concert Musicorama de mai 1968 issus des archives sonores d'Europe 1. Rendez-vous donc à 20h avec Stéphanie Loire. Vous avez écouté les podcasts ?
Mais j'ai jeté une oreille. Ouais. Hein ? Bah, c'est vraiment pas mal. Mais il faut préciser que c'est vous qui le faites.
Voilà. Voilà. Merci
beaucoup.
On va
être totalement complet.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h53, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi matin avec Alban Le Prince.
130 morts, des centaines de blessés. Les Français se souviennent des attentats du 13 novembre 2015. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Paris et pour 9 mois, 20 accusés seront jugés, 14 seront présents. Tous les yeux vont se tourner vers Salah Abdeslam, dernier membre présumé du commando terroriste encore vivant. L'Ordre des médecins réclame une troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour les soignants. Il estime dans un communiqué publié hier que leur protection est primordiale pour assurer la continuité des soins. La situation épidémique est toujours inquiétante. Dans les Outre-mer, l'Assemblée a donné son feu vert à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans la grande majorité des territoires jusqu'au 15 novembre. Le Sénat donnera son avis demain.
Europe Matin. Voilà pour l'actualité nationale et internationale. On va maintenant au plus près de chez vous avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Patrice Maggio.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin, où l'on peut lire dans l'édition du jour un article sur un fléau en pleine recrudescence, les vols sur les chantiers.
Oui, c'est pas nouveau les vols sur les chantiers, mais c'est une vraie préoccupation sur la Côte d'Azur. On en compte environ 200 par an entre la zone police et la zone gendarmerie. Ce sont des vols d'outils ou des vols d'engins de chantier beaucoup plus lourds. Si ça devient si préoccupant, c'est que eh bien les prix des métaux en général ont augmenté. Le prix des matières premières sont eux aussi à la hausse. Et il est très difficile ensuite de se réapprovisionner. Donc le préjudice, il est à la fois immédiat, hein, direct, il faut payer, il faut rembourser ce qui a été volé, mais aussi ensuite il faut attendre d'être approvisionné et ça fait des coûts pour les entreprises qui sont très importants.
Alors vous avez notamment recueilli le témoignage d'un patron d'une entreprise qui restaure des monuments historiques. Lui, on lui a volé pas mal de choses et notamment une pelle mécanique.
Oui, 4 vols en un an, effectivement, ça a commencé par des vols d'essence, ça, de vol de carburant, ça va, mais imaginez une pelle mécanique, même si c'est un petit modèle, c'est tout de même 2 tonnes qui en général se transportent sur des camions hein, et ça coûte plus de 20 000 euros à l'achat. Il sera remboursé beaucoup moins que ça parce que la compagnie d'assurance va prendre en compte l'usure et puis donc il doit facturer le temps qu'il ne pourra pas utiliser cet engin. Soit un préjudice d'environ 25 000 euros pour une entreprise comme ça qui réalise entre 0 et 2% de marge en ce moment puisque la concurrence est rude, c'est une véritable catastrophe.
Alors là, pour voler une pelle mécanique, on a affaire à des professionnels, non ?
Alors, ce sont des professionnels. Ils s'évanouissent tout de suite dans la nature. On imagine, c'est en tout cas ce que pensent les gendarmes et les policiers, que ce type de matériel est revendu très vite à l'étranger. C'est extrêmement rare de mettre la main sur les voleurs. En général, c'est plutôt pour des petits matériels revendus à la sauvette. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une convention est passée avec entre le syndicat des professionnels, la préfecture, policiers, gendarmes, pour que les policiers et les gendarmes sachent où sont les matériaux sensibles et les plus coûteux et puissent faire des rondes pour éviter ce type de larcin.
En revanche, embaucher un vigile la nuit qui surveillerait les chantiers, c'est inenvisageable ?
C'est inenvisageable, c'est complètement inenvisageable parce que ça renierait complètement la marge. Je vous parlais tout à l'heure de la marge, en tout cas avouée par les entreprises, entre 0 et 2%, c'est pas possible.
Merci Patrice Maggio d'avoir été en ligne avec nous, de nous avoir raconté l'un des articles à lire aujourd'hui dans Nice Matin. Très bonne journée à vous et à bientôt.
À bientôt, au revoir.
C'est une voix que vous allez sans doute entendre de plus en plus. Elle s'appelle Annie Lalalove. Son album The Boom Boom Shack, album volume 1, va sortir sur Europe 1. I'll make you happy, I'll help you stand. I'll make you dizzy at night when we're kissing in the dark. I'll make you coffee again and again. I'll make your heart beat loud in a pocket full of love. You're not alone, yeah, you're not alone, yeah, yeah, you're not alone. You feel so high, you will be dancing in a cloud. I know your feelings, I know your pain. I'll make your heart beat loud in a pocket full of love. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone.
Voilà qui met de l'entrain de bon matin, c'était Boum Boum Chac de la chanteuse française Annie Lalalove.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, merci de choisir Europe 1. Très bon réveil avec au programme de la prochaine demi-heure, Julien, un virus dans le virus.
Le Covid a bouleversé nos usages de numérique. Votre boucher vend désormais en ligne. Vous faites 2 jours de télétravail par semaine. Vos enfants ont maintenant accès à leurs cours sur un serveur. Bref, Internet est le grand gagnant de cette pandémie. Et avec lui, les pirates informatiques. Les attaques n'ont jamais été aussi nombreuses et elles touchent tout le monde. Entreprises, particuliers, services publics. On va en parler dans un quart d'heure avec un spécialiste des cybermenaces à l'occasion du Forum international de la cybersécurité qui se tient actuellement à Lille. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Avec l'une des plus grandes artistes de la musique américaine, Ole Kerr, le film Respect, qui raconte la vie d'Aretha Franklin, sort enfin au cinéma aujourd'hui. Une occasion trop belle pour vous emmener dans une petite église de Los Angeles, là où a été enregistré l'un des albums les plus importants de la chanteuse. Les coulisses du disque gospel Amazing Grace d'Aretha Franklin à 6h20.
Mais avant, l'amazing météo d'Anissa Haddadi, même si le temps du jour sera tout sauf exceptionnel, si j'en en crois la petite feuille que vous m'avez donnée, nous sommes partis pour plusieurs jours d'instabilité.
Bah, c'est-à-dire que je ne chante pas comme Jennifer Hudson et du coup, bah voilà, le résultat est catastrophique puisqu'il va beaucoup pleuvoir. Alors en fait, pour vous expliquer ce qui se passe, on a une belle dépression qui remonte du golfe de Gascogne jusqu'à l'Irlande et qui est au milieu du chemin. C'est nous. Donc ce matin, entre la Vendée et les Côtes d'Armor, les orages sont accompagnés de grêles, de forts coups de vent et de forts cumuls de pluie. Donc si vous nous écoutez dans l'ouest du pays, soyez très prudents ce matin. Dans la journée, les orages vont avancer vers le Limousin. Les rafales de vent là pourront atteindre les 80 km/h. On attend jusqu'à un mois de pluie dans le sud-ouest cet après-midi et cette nuit. Sur le reste du pays, en particulier sur la moitié est, là vous avez droit à un peu de sursis puisque des Hauts-de-France à la Provence, le soleil est encore au rendez-vous. Alors 11 degrés ce matin pour Nancy, 13 à Reims et Metz, 15 à Clermont-Ferrand, 18 à Paris et 20 à Biarritz. Sur la moitié ouest, ça baisse un peu avec seulement 21 degrés à Cherbourg, 23 à Lorient, 26 à La Rochelle et 31 à Paris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à vous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Changer de vie, de travail, de région, ces derniers mois, on y a tous pensé au moins une fois. Et pourquoi pas, le Cotentin, le territoire, lance une grande campagne de recrutement. 5000 postes sont à pourvoir. Salah Abdeslam, ennemi public numéro 1, attendu au palais de justice de Paris pour l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Le terroriste présumé va être extrait de sa prison sous très haute sécurité. Et puis la vaccination des adolescents, priorité du gouvernement grâce aux centres éphémères installés dans les établissements scolaires. Plus de la moitié des 12-17 ans ont déjà reçu leur dose. Reportage dans un lycée de Lyon. Et le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Vous êtes peut-être dans le brouhaha du métro ou au volant de votre voiture coincée dans les embouteillages. Votre esprit vagabonde jusqu'à cette question. Et si je changeais de vie, de travail, de région?
Et la réponse, ça pourrait être le Cotentin. Ce territoire affiche un taux de chômage parmi les plus bas de France, 2 points sous la moyenne nationale.
Et pour renforcer cette attractivité, la collectivité lance une vaste campagne de recrutement. Le reportage de notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul.
Cette vaste campagne de recrutement doit amener 5000 salariés au bout du monde, à Cherbourg. Serge Carantin, par exemple, le patron des constructions métallurgiques de Normandie, voudrait 50 personnes de plus. Autrement dit, il lui manque déjà plus de 12% de personnel.
Aujourd'hui, c'est un frein au développement pour certaines entreprises. Vous sentez peut-être un fond d'accent. Moi, je viens plutôt du bord de la Méditerranée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes perdu?
Non, j'ai rencontré une cherbourgeoise. Comme on dit, on ne passe pas à Cherbourg, en fait. On y vient. Mais quand on y vient, bien souvent, on a envie d'y rester.
Pour y venir, et pourquoi pas y rester, les collectivités ont mis 300 000 euros sur des visuels, notamment dans le métro parisien. Et puis, il y a 3 personnes, raconte le président de l'agglo, David Marguerite, qui doivent installer et chouchouter les nouveaux.
On est sur un autre positionnement qu'un territoire de la périphérie parisienne. On est vraiment sur un territoire qui aspire à ce que les installations elles soient durables. Et un territoire comme le nôtre, je trouve, illustre très bien un changement de société très profond.
L'élu local qui revendique déjà ses arguments massus, qu'hier, après le travail, eh bien ses collaborateurs sont allés à la plage. Cherbourg, Sandrine Prioul, Europe 1.
Pour la première fois de son histoire, la SNCF pourrait perdre une ligne de TER. Marseille-Nice, 160 km de rail que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite attribuer à Transdev plutôt qu'à la SNCF. Un vote formel est prévu en octobre.
9 mois d'audience pour juger une soirée d'horreur. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre aujourd'hui.
1800 parties civiles, 330 avocats et un homme, Salah Abdeslam, seul survivant du commando meurtrier, attendu cet après-midi au palais de justice de Paris. Depuis 2016, le terroriste est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne. Une détention avec un dispositif de sécurité unique, détaille Jean-François Forget, secrétaire général du FAPUNSA Justice.
On a créé une prison dans la prison pour Abdeslam. Depuis qu'il est à Fleury-Mérogis, il y a un dispositif hors norme où on a vidé les cellules autour de lui. Au sein de l'unité dans laquelle il est incarcéré, il n'est malgré tout pas le seul détenu. Donc tout est fait pour que les mouvements soient encadrés et qu'ils puissent le moins possible pouvoir communiquer avec d'autres détenus, tout simplement pour pas qu'ils puissent propager sa radicalisation et donc faire du prosélytisme à l'intérieur. Aussi faire en sorte de le garder en vie, ses missions réussies, puisque non seulement il n'a pas pu s'évader et il pourrait être présenté au procès. Et ça, c'est important pour que les victimes puissent avoir droit à ce procès, quoi. C'est du pragmatisme d'un côté et c'est un aveu de faiblesse de l'autre, c'est-à-dire que la France n'a aucun dispositif de prise en charge carcérale pour prendre en charge ce type de détenu. On ne peut pas vivre 20 ans à gérer cet établissement avec Abdeslam dans la situation dans laquelle il est géré aujourd'hui.
Jean-François Forget, secrétaire général UFAPUNSA Justice, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. Avec son béret sur la tête, elle avait été photographiée cet été lors d'une manifestation anti-pass sanitaire. Cette enseignante de 33 ans brandissait une pancarte antisémite avec les noms de responsables politiques et cette mention « traître ». La jeune femme comparaîtra aujourd'hui à Metz pour provocation publique à la haine raciale. Elle encourt 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
6h05, la suite de votre journal avec ce feu vert donné hier soir par l'Assemblée nationale. Feu vert à une prolongation jusqu'au 15 novembre de l'état d'urgence sanitaire en Outre-mer.
Des territoires où le taux d'incidence est 4 à 5 fois plus élevé qu'en métropole. La faute à une faible couverture vaccinale. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs évoqué la possibilité de mettre en place le pass sanitaire en Outre-mer.
Dans l'Hexagone, ce QR code sera obligatoire pour les adolescents dès la fin du mois. De nombreux établissements proposent donc à leurs élèves de se faire vacciner. Exemple au lycée Condorcet de Lyon, où s'est rendu notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
Hier, ce sont 50 adolescents qui sont donc venus au centre de vaccination tout à côté du lycée Condorcet.
Je te laisse relever ta main, s'il te plaît.
Voilà, c'est terminé.
t'as fait le plus dur.
Merci.
Sweb est l'un d'entre eux. À l'étranger durant toutes les vacances, il ne s'était pas fait vacciner jusque-là, mais la proposition de le faire dans le cadre du lycée l'a décidé.
Moi, j'ai proposé à mes parents et mes parents, ils m'ont donné leur accord. Je préfère être vacciné pour diminuer les risques et mes grands-parents, ils ont des maladies, donc je préfère protéger.
Hamza et Marwa le font, eux, pour retrouver une vie sociale.
On va pas se mentir, pour pouvoir aller au cinéma, etc., pour que ce soit plus simple.
Ils nous ont privé de notre vie sociale, du coup, on est obligé de se faire vacciner, ou sinon, on peut pas avoir accès à tout. Manger dans un restaurant, dans des supermarchés, et aussi sortir avec mes amis.
L'éducation nationale participe donc activement à l'effort de vaccination, explique le recteur de l'Académie de Lyon, Olivier Dugrippe.
Nous donnons la priorité aux territoires dans lesquels nous avons repéré des besoins afin de permettre à ceux qui ne l'ont pas fait spontanément de pouvoir se faire vacciner dans le cadre scolaire.
Aujourd'hui, 55% des 12-18 ans de l'Académie de Lyon sont déjà vaccinés. Ce type d'opération va donc se multiplier jusqu'aux vacances de Toussaint afin de faire encore grimper ce chiffre. Saint-Priest, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Ça me rappelle mon adolescence. Hein.
Bien sûr, vous avez reconnu Julien. Britney Spears, toxique justement. C'est l'information de la nuit. Le père de la chanteuse vient de demander officiellement la levée de la tutelle. Un contrôle qui concernait les finances, la vie personnelle de la chanteuse depuis 13 ans. Cette annonce est donc la fin d'un combat judiciaire pour la star américaine.
Et puis j'ajoute une toute dernière info météo. Anissa Dadi nous en parlait il y a quelques minutes de ces orages qui arrivent notamment sur le sud-ouest. Eh bien 32 départements viennent d'être placés en vigilance orange orage. Ça va du sud-ouest à l'Île de France. C'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
Il est 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Martin Lange et les Bleus renouent avec la victoire.
Oui, après 5 matchs nuls consécutifs, l'équipe de France s'est rassurée hier soir à Lyon. Victoire 2-0 contre la Finlande. 2 buts sur 2 très belles actions collectives conclues par le même homme, Antoine Griezmann. Le numéro 7 a inscrit hier ses 40 et 41e buts sous le maillot bleu. Il rejoint une autre légende, Michel Platini, sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Forcément une fierté.
Ouais, c'est beau, grande fierté. Voilà, c'est une légende pour les Français. Donc moi, voilà, très, très heureux, très fier. Et voilà, je pense qu'il reste encore de bonnes choses à accomplir en sélection. Je pense que je suis sur le bon chemin. Voilà, j'espère continuer à kiffer, que ce soit défensivement ou offensivement, que ce soit avec des buts, des passes. Donc voilà, continue comme ça et être toujours là pour l'équipe.
Il y avait de l'ambiance dans les vestiaires.
Il y avait de l'ambiance, effectivement. L'équipe de France s'est retrouvée dans le jeu hier, notamment autour du duo Griezmann-Benzema, le Madrilène qui a été fêté comme il se doit par ses anciens supporters lyonnais. Écoutez l'ovation. Avec cette victoire, les Français ne sont plus très loin de la qualification pour la Coupe du Monde. Il leur reste 2 matchs à disputer et ils sont largement en tête de leur poule avec 7 points d'avance sur la Finlande et l'Ukraine. Prochain rendez-vous le mois prochain pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Ça sera contre la Belgique.
Football toujours et des nouvelles de Nice-Marseille.
Oui, vous vous souvenez sûrement de ce fameux match du 22 août dernier, interrompu après un envahissement de terrain. Eh bien, le journal L'Équipe nous apprend ce matin que la Ligue pourrait renvoyer 2-2 les deux équipes. Un match gelé, sans aucun point distribué. C'est la solution qui serait privilégiée.
Il y avait du tennis aussi cette nuit, Martin.
Oui, on connaît les 2 premières affiches des demi-finales de l'US Open. Chez les garçons, le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, affrontera le prodige canadien Félix Auger-Aliassim. Le premier homme né dans les années 2000 à rejoindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Et chez les filles, la jeune canadienne, elle aussi, Leila Fernandez, se frottera à la Biélorusse Sabalenka. Enfin, un mot de volley pour finir, l'équipe de France affronte la Lettonie ce soir à l'Euro. Match à 19h. Les Bleus déjà qualifiés visent la première place de leur groupe.
C'était le journal des sports avec Martin Lange. Merci Martin.
6h et bientôt 10 minutes sur Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, on va s'intéresser à un fléau qui a explosé avec la pandémie. Les cyberattaques, elles se multiplient à mesure que notre économie et nos administrations se numérisent. Comment se protéger ? Eh bien, c'est tout l'enjeu du Forum international de la cybersécurité qui s'est ouvert hier à Lille. On en parle dans un instant avec un spécialiste des cybermenaces. A tout de suite.
Écoute, on peut pas travailler avec toi, t'es vraiment très lent. En réunion, t'as toujours un temps de retard, tu captes rien. Puis on m'avait dit que t'avais un bon réseau, tu parles. T'as 0 connexion, oui.
Mathieu, pourquoi tu parles à la boxe ?
Vous gérez déjà votre boîte, vous n'allez pas en plus gérer votre boxe. Freebox Pro avec fibre ultra rapide et une ligne mobile 150 gigas incluse pour 39,99€ hors taxes par mois la première année, toujours sans engagement. Appelez Free Pro au 1043.
Offre réservée aux professionnels sous réserve de raccordement fibre 5G en cours de déploiement et avec mobile compatible. 49,99€ hors taxes par mois au-delà de la première année. Conditions sur pro.free.fr.
Non mais t'as vu comment je suis habillé ? On rentrera pas, c'est sûr.
Certains clubs ont un dress code. Chez Nexity, pas besoin de porter un costume 3 pièces pour rentrer dans le club des investisseurs. Grâce à l'offre objectif propriétaire de Nexity, collectez 1 000 € auprès de vos proches avec la cagnotte immobilière et Nexity vous offre 1 000 € supplémentaires. Et jusqu'au 31 octobre, profitez des frais de notaire offerts.
Offre valable en cas de signature d'un contrat de réservation entre le 6 septembre et le 31 octobre 2021 portant sur un bien immobilier neuf. Retrouvez les programmes éligibles et les conditions sur nexity.fr. Ford.
Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez
l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Power Days signifie journée énergisante.
Tout savoir sur l'impôt sur le revenu avec le ministère des Finances. Valérie, experte auprès du ministère des Finances, nous a expliqué aujourd'hui que si vous avez reçu un avis d'impôt avec un montant à payer, c'est parce que vos prélèvements à la source en 2020 n'ont pas couvert le montant total de votre impôt. Pour éviter cela, Valérie nous a conseillé de signaler immédiatement tout changement de situation pour adapter son taux de prélèvement à la source en temps réel.
Renseignements sur impots.gouv.fr ou au 0809 401 401, appel non surtaxé.
Peugeot. C'est quand le bon moment pour passer chez Peugeot Service ? Eh bien, c'est en ce moment pour toute intervention en atelier. Que ce soit pour de l'entretien ou une réparation, Peugeot Service vous offre une remise immédiate de 50€ si votre véhicule a 4 ans ou plus. Il vous suffit de prendre rendez-vous en ligne. Et comme toujours, vous bénéficiez d'1 an d'assistance offert et de la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Avec ça, c'est sûr, la rentrée, c'est le bon moment pour passer chez Peugeot Service.
Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr, voir conditions en ligne.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12, bon réveil à l'écoute d'Europe 1. C'est l'autre virus qui pullule depuis le début de la pandémie. Il est informatique, c'est celui des cyberattaques en France. Leur nombre a été multiplié par 6 depuis l'apparition du Covid. Voilà pourquoi le Forum international de la cybersécurité, qui s'est ouvert hier à Lille, est plus que jamais incontournable. On en parle, Julien, avec Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie de cybersécurité chez Trend Micro, l'un des spécialistes du secteur.
Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Depuis Lille et ce Forum international de la cybersécurité, grand rassemblement qui intervient dans un contexte où les cyberattaques n'ont jamais été aussi nombreuses. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne qu'une entreprise, voire des services publics ont été visés. Que peut apporter ce forum pour mettre fin à cette flambée ?
Alors déjà, c'est un lieu d'échange et de partage, un endroit où on va pouvoir trouver des technologies qui correspondent à des environnements d'entreprises, d'administrations, de collectivités. Et puis également, c'est un forum européen et donc c'est un endroit de confrontation d'expériences. Et c'est quelque chose de très utile parce que souvent, on va chercher à comprendre comment telle solution, telle technologie a pu trouver des déploiements dans tel environnement, tel pays. Et donc c'est intéressant d'avoir ce partage d'expériences et également une présence des services de l'État parce que il y a potentiellement des dépôts de plainte, des poursuites qui peuvent être envisagées. Et donc, c'est une nécessité d'avoir également une connaissance des institutions publiques en charge de la lutte contre la cybercriminalité.
Alors, quand on dit cyberattaque, on pense en premier à ces virus qui bloquent les ordinateurs et exigent une rançon en échange. C'est ce qui est arrivé notamment à plusieurs hôpitaux ces derniers mois. On en a beaucoup parlé. J'imagine que le panel d'attaques est bien plus large.
En fait, les attaques vont d'une part de l'intrusion dans les systèmes, soit pour voler, collecter des informations. Ça peut être également une activité crapuleuse de manière à chiffrer des informations. On les rend inaccessibles avec la promesse d'une libération en échange du paiement des rançons. Et puis également, ça peut être du vol d'infrastructures. En fait, un peu comme quand on détournerait l'électricité de son voisin pour alimenter son foyer, là, on va utiliser les ressources informatiques, la puissance de calcul des ordinateurs de sa cible, de manière à gagner en efficacité ou se dissimuler contre d'éventuelles poursuites de services d'enquête.
Donc il faut se protéger, sauf que ça coûte cher de se protéger contre ces attaques.
Alors ça coûte cher de se protégées. Oui et non, les attaques et les destructions qu'elles peuvent causer sont également extrêmement coûteuses. En fait, on va partir d'un postulat de base qui est de dire il y a des attaques que je ne pourrais pas empêcher. Alors, quelle que soit la nature de mon activité, la taille de mon organisation, sa localisation géographique, et donc je vais me mettre et je dois me mettre en position d'être moins visible, et c'est-à-dire un peu comme un cambrioleur qui essaierait toutes les portes d'un immeuble, tous les étages pour s'attaquer à la porte la plus fragile. Bah, déjà, je ne dois pas être désigné par des personnes qui cherchent de l'information comme étant une cible fragile. Donc la première chose, c'est effectivement déjà de hausser son niveau de protection par des équipements, des infrastructures. Deuxième chose, c'est si une attaque doit survenir, je dois pouvoir la détecter. Et ça, l'investissement dans la capacité de détection va être un élément déterminant, de manière à pouvoir savoir que oui, quelqu'un s'est introduit dans notre système d'information, quelqu'un a dupliqué, copié des données, quelqu'un les a éventuellement exfiltrées, et ensuite il va falloir faire en sorte de cantonner, de structurer les systèmes d'information de manière à éviter des propagations. Bah, il faut éviter que le logiciel malveillant puisse naviguer à sa guise dans l'infrastructure visitée et qu'il puisse être circonscrit à une partie la plus limitée possible.
Qui sont les hackers derrière ces attaques? Ce sont des loups solitaires, des réseaux organisés?
Bah, en fait, on a d'une part la criminalité organisée qui s'est appropriée ce champ numérique parce que c'est un vecteur de gains financiers avec un sentiment parfois d'impunité ou en tout cas le fait que les victimes hésitent à porter plainte, voire les victimes qui ignorent qu'elles ont fait l'objet d'intrusion parce qu'elles ne disposent pas de capacité de détection. Et puis, on a, il faut le rappeler quand même, des clients, des commanditaires parce que lorsque vous récupérez du renseignement économique, vous vous doutez que seulement d'autres acteurs économiques peuvent être intéressés par ces informations. Donc on a un écosystème qui a su se créer avec des organisations pyramidales, des commanditaires, des fournisseurs, des exécutants. C'est une économie à part entière du crime cyber qui est aujourd'hui déployée à l'échelle internationale.
Alors le gouvernement a annoncé en février dernier mettre 1 milliard d'euros sur la table pour renforcer le secteur de la cyberdéfense. Par ailleurs, une unité spéciale de la gendarmerie a été créée cette année avec 7000 cyber-enquêteurs. Les choses bougent donc. Est-ce que ça va suffire pour rattraper notre retard, Nicolas Arpagian?
Alors, il faut continuer à investir parce que c'est les femmes, les hommes et qui doivent avoir la tête bien faite sur ces sujets. Et là, il faut des recrutements. Et puis, c'est surtout des expertises qui sont recherchées par l'ensemble des acteurs de la société, c'est-à-dire les entreprises civiles, les administrations civiles de l'État, les administrations militaires, les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services et puis également le monde de la criminalité organisée.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie de cybersécurité chez Trend Micro et auteur de La cybersécurité, c'est aux éditions Presse Universitaire de France. Bon forum et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Il est 6h18, restez avec nous dans un instant, Aretha Franklin dans la partition.
Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé.
Pareil pour la Corsa électrique.
Il y a aussi le confort premium.
Pareil pour l'électrique.
Le plaisir de conduire.
Pareil.
Et le prix, 119 euros par mois.
Encore pareil. On va jamais réussir à choisir.
En septembre, profitez de nos offres sans pareil. Essence ou électrique, l'Opel Corsa est à partir de 119 euros par mois. Ça, c'est Opel. Corsa et Corsa E-Edition à partir de 119 euros par mois avec apport de 1500 ou 2000 euros selon version. LLD 48 mois valable jusqu'au 30 septembre sous condition de reprise. Détails sur opel.fr.
Bouygues Télécom.
Véro de Vannes voudrait équiper son ado Victor d'un premier forfait mobile pour la rentrée. Mais Véro souhaiterait que ce forfait s'adapte à l'évolution des besoins de Victor, sans qu'il n'en abuse. Eh bien Véro, cette offre va vous ravir.
Bouygues Télécom invente son forfait sensation évolutif 1 à 10 gigas. Un forfait qui grandit avec votre ado pour seulement 3,99€ par mois la première année pour les clients Bibox, puis 11,99€ par mois. Et oui, seulement 3,99€ par mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 12 mois, France Métropolitaine, offre soumise à condition.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, je suis en colère, rouge de colère, vraiment.
Et la raison de ta colère?
La raison? Mais le raisin blanc patron. En ce moment chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin blanc à 1,49€.
1,49€ le kilo de raisin blanc, tu veux me mettre en colère? Eh ben toi, y'a que des pépins, hein. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, variété Vittoria et ou Italia, origine Italie. Plus d'informations sur Lidl.fr.
1984, Renault invente les voitures à vivre.
2021, Renault continue de se réinventer avec la gamme e-tech. 8 nouveaux modèles hybrides et électriques. Aujourd'hui, c'est le renouveau Renault. Pendant les portes ouvertes du 16 au 20 septembre, découvrez notre nouvelle gamme et profitez d'aides à la reprise jusqu'à 7000 euros. Demandez votre offre exclusive en concession ou sur Renault.fr. De 2000 à 7000 euros ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule roulant. Offre finalisée en concession valable jusqu'au 30 septembre. Conditions sur Renault.fr.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20, très bon réveil. Les principaux titres de l'actualité avec vous, Alban Le Prince.
32 départements, vigilance orange cet après-midi à 16h pour orage entre l'Île-de-France et l'Occitanie. L'Aude aussi concernée pour pluie inondation à partir de minuit. C'est à 12h30 que le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre à Paris. 130 morts, des centaines de blessés. Hier soir à la télévision, François Hollande, président de la République à l'époque, s'est souvenu des heures et des minutes épouvantables. Didier Deschamps soulagé sur l'antenne d'Europe 1 après la victoire des Bleus hier à Lyon. Résultat 2-0 contre la Finlande en qualification pour le Mondial 2022 avec un doublé d'Antoine Griezmann.
Votre partition, Omblin, toutes ces petites histoires, anecdotes qui se cachent entre les notes. Et c'est aujourd'hui que sort dans les salles de cinéma avec Europe 1 le film Respect sur la vie d'Aretha Franklin. Et ce matin, vous avez choisi, Omblin, de revenir sur l'un des événements majeurs dans la carrière de la chanteuse, l'enregistrement du double album Amazing Grace, les 13 et 14 janvier 1972.
Nous sommes, Julien, dans le quartier de Watts, à Los Angeles, au New Temple Missionary Baptist Church, un ancien cinéma avec son néon qui est éclaire le fronton, là où prêche le révérend James Cleveland, un ami de la famille Franklin.
Quelle voix. Lorsque ce projet de concert est mis en chantier, cela fait 5 ans qu'Aretha Franklin est désignée comme étant la reine incontestée de la musique soul.
Sa version de la chanson Respect d'Otis Redding l'a rendue célèbre. Aretha Franklin a 29 ans et elle ressent le besoin de revenir à ses racines. Elle souhaite donc sortir un album de gospel le plus authentique possible, enregistré en public dans une église.
Et dans un premier temps, sa maison de disques se montre plutôt réticente.
Il faut dire qu'Atlantic Records est devenue une référence du genre rhythm and blues, mais le label se laisse convaincre à condition que les deux récitals soient filmés et fasse l'objet d'un documentaire. Sydney Pollack est désigné pour assurer la captation.
Dans cette petite église du quartier noir de Watts, Aretha Franklin est entourée de ses musiciens.
Les choristes sont ceux du révérend Cleveland. Entre les micros et les câbles des caméras 16 mm, 500 personnes se serrent sur les bancs en bois. Prêts à être touchées par la grâce, Aretha Franklin porte une robe longue et ample, arbore une coupe afro, quelques pierres précieuses sur ses boucles d'oreilles.
Celui qui n'aurait raté ce moment pour rien au monde n'est autre que son père, le brillant pasteur Clarence Lavone Franklin.
Oui, son père qu'elle admire tant. Dans son beau costume bleu, il éponge le front de sa fille lorsqu'elle est devant son piano.
Aretha Franklin improvise, réinvente les morceaux, modifie les tempos devant un public exalté qui pleure, qui lui répond.
Oui, le double album Amazing Grace sort 6 mois plus tard. Il reste le disque le plus vendu de sa carrière. Quant au film de Sydney Pollack, caché dans un tiroir pendant près de 50 ans, notamment pour des raisons techniques, il a été dévoilé en 2018, quelques semaines après le décès de la chanteuse.
Oh, yeah.
How I Got Over, extrait du concert Amazing Grace, un épisode important dans la carrière d'Aretha Franklin qui conclut le film Respect en salle aujourd'hui avec l'éblouissante Jennifer Hudson dans le rôle de la chanteuse.
Merci Omblin, et à l'occasion de la sortie du film Respect, journée spéciale Aretha Franklin sur Europe 1 avec notamment Stéphane Bern et Mathieu Noël qui vous raconteront le destin de la reine de la soul dans Historiquement Vôtre à partir de 16h. 6h25 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. Votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin.
6h27 sur Europe 1. Bon début de journée et merci de votre fidélité. Il est l'heure pour nous, Omblin, de passer le micro.
Oui, on se donne rendez-vous demain à 5h. D'ici là, vous restez à l'écoute. Votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour. Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Merci d'avoir tenu la baraque depuis 5h. Comme tous les matins, les auditeurs, je suis sûr, vous en remercie. Je vous donne quelques éléments du programme d'Europe Matin. 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, ce sera Gilles Kepel, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages sur le djihadisme. Le dernier traite de ce fameux djihadisme d'atmosphère qui serait la dernière mouture, le dernier avatar, si vous voulez, de cette menace djihadiste qui pèse encore sur la France. On va en parler à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Est-ce que d'autres 13 novembre sont possibles en France? On lui posera tout à l'heure la question et on reparlera des attentats du procès. Comment ça va se dérouler? À quelle stratégie s'attendre de la part des accusés? Stratégie de défense. Nous serons avec Maître Gérard Chemla dans les coulisses de l'info à 8h40. Et puis, on va reparler aussi de ce film dont vous nous parliez à l'instant, consacré à Aretha Franklin, Respect. Ce sera la chronique de Laurie Choleva tout à l'heure, la chronique ciné, à 6h40. Mais je vais tout de suite passer la parole à Anissa Haddadi, puisque sur le front de la météo, Anissa, alors on avait connu de fortes chaleurs, vous nous aviez dit le prix à payer, ce seront des orages. Mmh. Et bien, ils arrivent là.
Et oui, ils arrivent et Météo France vient de placer 32 départements vigilance orange. Alors, ça concerne les régions entre l'Occitanie et l'Île-de-France. À partir de 16h, cette vigilance, 31 départements placés en vigilance orange et le département de l'Aude placé en vigilance pluie et inondation. Et on sait que c'est un département qui est très souvent touché par les inondations. On va suivre ça de près. Donc ce matin déjà, nous avons actuellement des coups de tonnerre. On voit des impacts de foudre sur les côtes de Loire-Atlantique, de la Vendée, au sud du Morbihan également. Le tonnerre gronde. Dans la matinée, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le temps est très pluvieux. Et puis au fil des heures, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, sur le centre-val de Loire, d'ici ce soir, les orages arrivent. Dans toutes ces régions, les orages pourront être localement forts. En fait, c'est en fin de journée qu'il va falloir être très vigilant parce que c'est là que les orages seront les plus violents et en particulier dans le sud-ouest. En gros, pour résumer, Dimitri, on attend jusqu'à un mois de pluie en quelques heures, des averses de grêle et des gros coups de vent jusqu'à 80-90 km/h. Pour les autres régions, la moitié est, rien à signaler. Là, l'été se poursuit. Les orages vont arriver au fil des jours, mais pour l'instant, des Hauts-de-France jusqu'à la Provence, vous avez du soleil et du beau temps.
Voilà, donc faites attention, soyez prudents dans ces 32 départements. Vigilance orange, on va suivre ça tout au long de la matinée. Merci Anissa. Rendez-vous dans une demi-heure. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Europe 1.